Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue de ce soir va s'articuler sur le financement des groupes terroristes. Plusieurs attaques obscurantistes successives et coordonnées ont visé du 30 mai au 5 juin dernier des positions de l'armée malienne au centre, au sud, à l'ouest et au nord du pays. Cette situation continue d'augmenter le nombre de déplacés internes. Au même moment, le groupe Wagner annonce la fin de sa mission au Mali alors que l'État n'a jamais reconnu sa présence. Pendant ce temps, l'Africa Corps, une organisation paramilitaire russe s'installe au Mali selon plusieurs sources sécuritaires. Quelle stratégie faut-il adopter contre la recrudescence des attaques contre les emprises de l'armée? Comment les actions de groupes terroristes sont-elles financées? Quelle stratégie contre le financement du terrorisme? Comment gagner cette guerre asymétrique? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Faïké Papis Sissoko, sociologue, expert en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent menant au terrorisme. Docteur Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Des attaques terroristes ont eu lieu à Sikasso, Ségou, Douanza, Tombouctou et Gao contre les emprises de l'armée malienne. Faïké, une question de tour de table. Comment comprendre ces nouvelles hostilités?
Merci beaucoup, M. Imran. Merci à mon co-débatteur. Je pense que vous voulez qu'on parle de la situation sécuritaire du pays qui se résume par les récentes attaques qui ont été perpétrés par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sous l'acronyme GINIM. Monsieur Imran, il faut reconnaître que ces différentes attaques ont pu avoir lieu grâce à une combinaison de facteurs stratégiques, géopolitiques, sociétaux et opérationnels. Donc je vous donne quelques principales raisons. D'abord, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est l'un des groupes armés terroristes qui opèrent au Mali, principalement au nord et au centre, et dans les zones frontalières du Burkina et du Niger. C'est l'un des groupes qui maîtrise parfaitement la situation géographique du centre et du nord, ainsi que les zones frontalières. Donc ils ont utilisé leur bonne maîtrise, leur bonne connaissance du milieu, pour pouvoir mener ces attaques. Deuxièmement, c'est un groupe aussi qui a pu s'enraciner géographiquement, localement, qui a pu intégrer les communautés peules pour pouvoir exploiter le conflit intercommunautaire Peul, Dogon, Bambana. Donc, en troisième raison, il ne faut pas oublier de la stratégie d'alliance stratégique. À titre de rappel, ce groupe est né juste en 2017 à la suite d'une fusion de plusieurs groupes terroristes, à savoir en Sardine, Acmi, Al-Mourabitoun et la Katiba de Massina. Donc, je vais ajouter à cette alliance ce qu'on appelle la fédération. La fédération des efforts entre ces groupes armés. Cette fédération a permis à ces groupes de mutualiser leurs efforts, à mixer leurs expériences et à unir les ressources humaines et matérielles pour pouvoir mener ces attaques contre l'armée malienne. Donc, ces groupes sont plus que les cafards, il faut dire comme ça. Ils ont pu se donner une intelligence des cafards pour pouvoir mener ces attaques. Ils se profitent de l'absence de l'État souvent dans certaines zones pour pouvoir instaurer ce qu'on appelle une gouvernance parallèle en intégrant bien sûr les communautés et étant dans cette intégration, observer l'environnement et tramer les coups.
Cette organisation communautaire dont vous parlez, quelle est toutes ces attaques-là contre les emprises de l'armée malienne, quels sont selon vous les objectifs visés par ce groupe terroriste?
D'abord, c'est pour l'endoctrinement de communautés. ils parviennent à s'attaquer donc, au camp militaire, c'est pour pouvoir créer des piscous au niveau de communauté. C'est pour montrer aux communautés que nous sommes un groupe qui existe ici. Nous sommes là et nous avons notre force pour déstabiliser ceux qui sont censés de vous protéger. Donc c'est un message qu'ils lancent à l'endroit de communauté. C'est une façon de continuer à avoir l'adhésion de communautés dans leur cause.
D'accord. Docteur Ahmadou Touré, est-ce que vous avez la même lecture face à ces nouvelles attaques terroristes contre les emprises de l'armée malienne, quand on sait qu'il y a depuis quelques années, depuis 2022, on ne parle plus des attaques contre les forces armées maliennes, c'est l'armée qui partait à l'offensive. Aujourd'hui, c'est les groupes terroristes qui viennent jusque dans les camps au nord, au centre, au sud et à l'ouest du pays.
Donc, pour cette lecture, j'ai plutôt une lecture nuancée par rapport aux propos du collègue. D'entrée de jeu, si je peux me permettre, on peut trouver une définition au terrorisme. Parce que sur le droit international, il n'y a pas de définition standard. Mais de façon générale, on peut retenir le terrorisme comme l'usage ou la menace d'une violence illégale par des acteurs non étatiques pour atteindre un objectif politique, économique et religieux, en sémant la peur, la coercition ou l'intimidation parmi le public ou les gouvernants. Donc si on parle du terrorisme aussi, nous avons les caractéristiques. Nous avons les actes criminels, attaques, enlèvements, assassinats. Nous avons aussi les ciblages des civils, infrastructures. On a aussi les forces étatiques. Donc l'ensemble de tout ceci viserait à quoi ? À déstabiliser, à imposer une idéologie et forcer un changement de politique. Donc si on peut revenir sur les attaques, pour les attaques récurrentes et récentes, nous avons une première lecture. La première lecture, c'est une réponse donnée à l'architecture. Parce que vous avez su qu'en ce moment, le président de la transition a ordonné une nouvelle opération militaire qu'on appelle Dougoukoloko. Donc Dougoukoloko qui a remplacé deux structures, Maliko et il y avait deux têtes d'opération qui ont été remplacées par la nouvelle opération qu'on appelle Dougoukoloko. Nous avons aussi les forces unifiées de l'AS. Nous avons aussi les engagements des troupes au sein de la zone des trois frontières. Donc ces attaques pourraient être une réponse aussi à l'architecture, parce que nous avons su que les terroristes pourraient aussi profiter des renseignements, ce qu'on appelle les failles du système des forces armées de sécurité, c'est-à-dire à travers le dispositif.
Donc vous voulez parler des failles de renseignement alors ?
Bon, pas failles de renseignement, des failles logistiques. C'est-à-dire que s'il y a passation ou s'il y a mouvement, le temps qu'une force s'installe, que l'autre prenne possession, les groupes terroristes peuvent profiter des failles logistiques. Donc quand on parle de failles logistiques, c'est-à-dire que s'il y a des forces qui devraient finir leur mission, devraient être remplacées par d'autres forces. Donc on peut parler de ces forces, on peut parler des failles logistiques. Donc pour le deuxième point, on peut parler aussi d'un renforcement en termes de géopolitique, parce qu'il faut reconnaître que ces groupes terroristes, notamment la Katiba et les Génim, qui seraient affiliés d'office au front, le front de libération de l'Azawad, parce qu'ils se sont rencontrés. Donc l'ennemi de mon ennemi étant ton ennemi. Donc il y a une coalition ordonnée et organisée, et soutenue par des puissances extérieures en termes de logistique, en termes d'armement. Et si vous avez vu aussi les mécanismes d'opération de ce groupe, ça montre qu'ils ont reçu des appuis logistiques. Donc ce n'est plus les mêmes groupes classiques qu'on connaissait. Donc c'est-à-dire que c'est une guerre purement, une guerre communicationnelle, en plus une guerre psychologique et plus une guerre qui serait, on ne peut pas dire, c'est des allégations, on ne peut pas dire que c'est des guerres autocommandées ou dirigées de l'extérieur. Donc la troisième lecture qu'on peut retenir de ces attaques, c'est tout à fait normal parce que, comme on dit, en guerre, il n'y a pas de repos. C'est une guerre asymétrique. Donc, c'est des gens qui ont pris le temps. Pendant longtemps, on n'a pas attaqué les camps. Si vous avez vu le camp de Tombouctou. Donc, ils ont su à un moment donné, c'est avec la remontée ou ce qu'on appelle la montée en puissance de l'armée, à créer ce qu'on appelle la destruction des bases classiques de ces terroristes. Donc, les terroristes n'ont plus de bases. Donc, au lieu d'avoir une remontée des groupes terroristes vers le sud ou vers le nord, donc, c'est des groupes. Donc, c'est les cellules dormantes qui sont dans les endroits.
D'accord.
Qui
alors,
sont...
Alors, comment ces terroristes parviennent à accéder jusque dans les camps pendant que l'armée disposait, bien sûr, de nouvelles technologies pour détecter la présence de l'ennemi ?
Bon, en réalité, pour cette question, c'est une question importante, mais ce qu'il faut retenir en matière de guerre, c'est ce qu'on appelle l'ennemi vient le moment le moins attendu. C'est-à-dire que quand je viens avec des dispositions. Si nous avons des moyens pour contrôler, ils peuvent avoir des moyens aussi pour brouiller. Et ils aussi peuvent avoir des renseignements. Donc, ce n'est pas une guerre où forcément les moyens dont on a peuvent nous prévenir, peuvent empêcher à ce que nous pouvons recevoir des coups. Je donne un exemple. Malgré la puissance de la Russie, l'autre jour, l'Ukraine a pu faire rentrer des camions, des drones, pour détruire les bases. Donc, ça veut dire qu'en matière de guerre, forcément, il y a ce qu'on appelle des petites failles que l'ennemi pourrait profiter. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle la sécurité 100%. Donc, pour notre cas spécifique, il y a aussi un deuxième point qu'il faudrait souligner, c'est qu'il y aurait aussi une complicité interne de la population. Parce que, comme on l'a dit, ces gens-là sont logés où ? Sont nourris où ? Si on prend le cas spécifique de Tombouctou, ils sont rentrés quand, comment et qui, avec qui ? Et subitement, ils sortent comme ça. Donc, cela veut dire qu'il y a forcément une complicité locale entre les populations de surcroît qui apportent leur appui à ceci. Donc, c'est ce qu'il faudrait toucher. Donc, heureusement, les collègues sont là, ils sont en charge de ce phénomène. Comment ces populations n'interviennent pas, n'appuient pas l'État jusqu'à ce que les touristes arrivent à commettre leur forfait. Donc, pour continuer, ce qu'on peut dire, ces attaques s'expliquent par ce qu'on appelle la nouvelle architecture des groupes terroristes. C'est-à-dire qu'ils ont changé de stratégie. Au lieu d'attendre l'armée, ils n'ont plus des bases classiques. Ils tournent dans les villes, les villages, là où ils peuvent faire les attaques, là où il faut se dissimuler. Ils vont se dissimuler au sein de la population, ce qui rend vraiment difficile et ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Comment lutter contre ce phénomène ?
D'accord. Vous l'avez dit, les terroristes se renforcent localement, communautairement, malgré les différentes frappes aériennes menées à longueur de journée par les armées sahéliennes. Quelle explication à cela ? Comment comprendre cette situation pendant que des frappes sont contre ces groupes terroristes et ils se renforcent ?
Merci beaucoup, Imran. Avant de répondre à cette question, je voudrais livrer une dernière lecture sur votre première question pour appuyer un peu ce que mon collègue a dit. Ces récentes attaques peuvent être vues comme une démonstration de force. Une démonstration de force dans ce sens, montrer au gouvernement central, il s'agit bien sûr de l'AIS, gouvernement central que nous sommes équipés comme vous, sinon nous le sommes plus que vous. Et juste à titre d'exemple, dans les années, à la naissance de la crise, 2012 jusqu'en 2020, M. Imran, on n'a jamais entendu parler que le terrorisme dispose de drones. Mais ces derniers temps, qu'il soit vrai ou pas, en tout cas, c'est dans les journaux que le terrorisme dispose de drones. Mais là où je vais rejoindre mon corps de bataille pour dire que effectivement c'est une nouvelle réorganisation, c'est une nouvelle acquisition des équipements, peut-être que c'est des équipements sophistiqués comme l'armée qui veulent nous montrer que nous sommes là, nous sommes bien équipés comme vous. Les équipements sont là, vous opérez au plan terroriste, sur le plan au sol, nous sommes également au sol, vous êtes en haut, nous sommes en haut. Vraiment, c'est une lecture que je finis par le faire. Et je pense que ça peut être vrai quand on évalue la combinaison de ces attaques-là. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, donc ils attaquent par-ci, par-là, pendant que l'armée tourne l'autre côté, donc ils surgissent de l'autre côté. Donc, quand on parle de drones. Mais, Erwan, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que la façon dont ces groupes arrivent à mettre en place un système de communication efficace à chaque fois qu'ils attaquent le camp, à chaque fois qu'il accède à une partie, c'est cette partie-là qui est exposée. Donc c'est pour montrer au monde, à l'armée malienne, aux populations que voilà, là où vous êtes censé être sécurisé, nous sommes là, nous détonons.
Comment en même temps que la guerre est déclenchée contre l'armée malienne, les attaques sont déclenchées contre l'armée malienne, on voyait des images partagées automatiquement par des valets locaux.
Exactement. C'est là où il faut mettre l'accent sur la sensibilisation auprès de nos communautés. Pourtant, les structures ont beaucoup travaillé dans ces domaines-là. même au niveau de service de renseignement, je crois qu'il y a des choses qui se passent que nous ne savons pas. Mais ils travaillent beaucoup dans ce domaine-là. Il y a des sensibilisations au niveau de DIRPA également qui alerte souvent les populations à ne pas se mettre dans la lecture de tout ce qui se passe sur le réseau. Mais bon, vous savez, nous sommes dans un pays où peut-être que la majorité n'a pas eu la chance d'avoir un niveau d'instruction.
Voilà. Revenons à la question que je posais, je disais tantôt qu'on voit à longueur de journée des frappes aériennes où on voit les images des terroristes calcinés. Malgré cela, les terroristes se renforcent. Oui. Comment comprendre cela? Quelle explication à cette situation?
Voilà, donc Imran, raison pour laquelle à chaque fois je dis aux gens que le terrorisme est un projet international. Une ressource humaine assez importante qui est là. Mais ce que vous voyez ici, les acteurs que vous voyez ici ne sont que des représentants ou des acteurs ou des missionnaires. Mais les cerveaux sont ailleurs. Monsieur Imran, avant 2012, les terrorismes qui ont attaqué le Mali étaient ailleurs. Les terrorismes étaient vaincus d'ailleurs. Donc la base des terrorismes ne sont pas ici au Mali, ne sont pas dans le pays du Sahel. Mais vous savez, vous êtes des journalistes, je vous rappelle tout simplement qu'en Afghanistan, il y a ce qu'on appelle les zones tribales. Les zones tribales qui est aussi un fief, un sanctuaire de terrorisme. Là où
Alors, terrorisme... vous dites que les bailleurs sont ailleurs. Comment les terroristes parviennent alors à avoir ces financements des bailleurs qui sont ailleurs, accéder à ces financements-là et faire leurs actions avec ces financements-là?
Oui, mais vous savez, quand on dit les terrorismes sont des gens qui sont là pour semer la terreur. Mais il y a des terrorismes qui ne s'appellent pas terroristes. À travers leurs objectifs, comme les trafiquants de drogue, par exemple. Les trafiquants de drogue qui veulent avoir un Sahel libre pour faire écouler leur stupéfiant, donc ne sont pas appelés typiquement terroristes, mais ils sont dans la danse. Parce qu'ils veulent soutenir ceux qui sont là pour déstabiliser, pour avoir un boulevard. Donc, si ce sont des terroristes typiques, une figure connue, non, on ne serait pas là, M. Ruban. L'armée fera son affaire. Mais des figures inconnues, des figures absentes, ça va être difficile. C'est comme vous l'avez toujours dit, raser la tête de quelqu'un en son absence, on peut calciner ceux qui sont sur le terrain. Mais nous ne sommes pas encore en mesure d'incinérer les cerveaux qui ne sont même pas sur notre sol.
Alors, qui finance selon vous? Vous avez dit des bailleurs. Les bailleurs là qui sont à l'extérieur, sont-ils connus?
Ah mais, je peux dire qu'ils sont-ils connus, mais il est difficile de les nommer. Mais ils sont connus. Les trafiquants, vous savez, le trafiquant de drogue, c'est un réseau international. C'est un réseau qui est implanté dans le 5 continents. Et ils sont là, c'est dans ça qu'ils vivent. Donc il faut que ces réseaux-là soient fluides. Le Sahel, M. Imran, est un point stratégique pour le monde entier, pas pour le Mali, pas pour le Sahel. Géographiquement important pour le monde. D'abord pour la cocaïne et le cannabis en provenance d'Amérique du Sud qui doivent être acheminés vers l'Europe. C'est à travers le Sahel que ça va passer. Donc, c'est un point d'interjection. Donc, cette zone ne répond pas à l'intérêt des gens qui veulent vraiment faire écouler ces genres de produits. Donc, il faut que la zone de trois frontières soit déstabilisée pour leur créer un boulevard. Donc, ce sont eux-là qui financent les terroristes, mais qui ne sont pas en vie.
D'accord. Docteur Ahmadou Atouré, d'où vient le financement, selon vous, du terrorisme et pour quel intérêt?
Bon, le financement m'oblige à définir le financement du terrorisme. Ce qu'on appelle comme le financement selon la Convention des Nations Unies en 1999, c'est le fait de fournir ou de collecter par quelques moyens que ce soit, direct ou indirectement, des fonds ou ressources dans l'intention qu'il soit utilisé en partiel ou bien de façon intégrale pour commettre des actes terroristes. Donc, dans les aspects clés du financement, ce qu'on peut ressortir, nous avons inclus, nous avons l'argent, les biens logistiques, tout ce qui vise à donner un soutien aux actes, aux organisations. Donc, aussi, nous reprenons le cas spécifique du Sahel. Nous avons le financement du tourisme au Sahel, c'est vrai. Ils sont financés. Maintenant, par qui et par comment? Nous avons les ressources naturelles. Quand on parle des ressources naturelles, nous avons quoi? Nous avons l'argent liquide. L'argent circule beaucoup. C'est des gens qui ne font pas de transactions. Ils ont de l'argent dans des sacs, ça circule. Nous avons les rançons, les taxes, les profits des trafics illicites. C'est-à-dire que, comme l'a souligné le collègue, drogue et autres trafics. Nous avons les ressources matérielles. Nous avons les armements. Nous avons les munitions. Nous avons récemment, nous avons les drones. Nous avons le carburant. Nous avons aussi tout ce qu'il faut pour acheter à manger ou à boire. Nous avons les soutiens logistiques, ce qu'on appelle les nourritures, les abris, les moyens de communication. Parce qu'ils ne communiquent pas avec les téléphones. Ils ont leurs propres moyens de communication satellitaires, les tourailles ou autres. Et aussi le fonds pour recruter. Parce que c'est surtout le fonds pour comment ils recrutent.
Voilà. Comment ils parviennent à recruter, vous l'avez dit, comment ils parviennent à recruter localement sans être détectés par...
C'est la précarité. C'est la précarité. C'est-à-dire que c'est la précarité. Souvent, et aussi il y a la force. On oblige certains pour les aimer. De façon générale, il y a la précarité que quand il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'emploi, certains se redonnent. Ou il y a certains même qui se rejoignent parce qu'ils se reconnaissent dans leur idéologie. Mais il y a aussi la pression qu'ils peuvent exercer sur la famille. Donc, dans ces sources de financement, ce qu'on peut dire, en plus de ceci, vous avez aussi des sources de financement extérieures qu'il est difficile d'établir. Mais c'est des allégations, c'est des faits, c'est des oui-dire. Donc ils seront soutenus par ceux qui ont des intérêts à déstabiliser les différents régimes en place. Ceux qui ont leurs intérêts touchés. Ceux qui ont, par exemple, un trafiquant de drogue, quelqu'un qui ne veut pas que telle ou telle personne puisse être là. Donc le terrorisme, c'est comme on dit, c'est un fourre-tout. Donc ça peut donner l'occasion à tout un chacun de régler son compte étant absent. Maintenant, ce qui est essentiel ici, c'est de revoir la logistique même du terrorisme au Sahel. Dans cette logistique, nous avons quoi? Nous avons les armements. Il est très difficile que les terroristes produisent des armes. On reconnaît qu'ils trouvent des armes, ou soit on les achète, soit on les donne. Même pour les EID, les explosifs, il faudrait trouver quelqu'un qui les finance, qui les forme. Nous avons aussi les mobilités, l'utilisation des motos, l'utilisation de drones, comment réparer, comment soigner. Nous avons aussi les pick-up. Donc, si on prend tout ceci, la communication, l'approvisionnement, les bases frontalières, surtout le recrutement, l'enroulement des jeunes locaux via des promesses de salaire. Bon, l'autre partie, je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas du... Le terrorisme, quand même, il y avait un communiqué du Burkina Faso et de l'AS qui stipule que les terroristes sont des terroristes. La définition est claire. Donc, c'est pour dire qu'on peut te promettre des choses, mais en réalité, c'est des gens souvent qui sont enroulés au profit soit des salaires, soit des promesses. Mais à ce jour, il est très difficile parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont financés par tous ceux qui sont contre le système en place. En termes d'armement, ils ont de l'armement, ils ont de l'argent, ils ont de la mobilité, ils ont des communications de dernière crise et surtout, ils ont des relais internationaux. Ce qui se passe tout de suite...
Certaines sources de financement des groupes terroristes pourraient être à la main, notamment de l'État, pour garder ces jeunes-là qui sont souvent recrutés dans les groupes terroristes. Je parle notamment des zones aurifères. Quand je prends par exemple la zone aurifère de Tinzawatène, pourquoi l'État ne met pas de dispositions en place pour pouvoir récupérer, occuper ces espaces-là afin d'empêcher ce groupe terroriste à accéder à ces zones aurifères.
Ce qui est sûr, avec la visite du général Sadio à Kidal, même avant sa visite, toutes les zones libérées par l'armée, c'est des zones contrôlées. Même il y a ce qu'on appelle, dans les réformes du code minier, des structures sont spécialisées. L'État les a même donné des licences pour faire les prospections aurifères. Mais il est difficile, malgré qu'on contrôle nos ressources naturelles, il y a aussi ce qu'on appelle l'argent des rançons, les prises d'otages. Il y a ce qu'on appelle les collectes, ce qu'on appelle les zakats. C'est-à-dire que le financement, c'est pas... Donc, ils ont plusieurs canaux de financement. Donc c'est très difficile de trouver du jour au lendemain un mécanisme pour lutter. Mais à long terme, on peut trouver, on peut être à bout de ce financement.
D'accord. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme repose sur quel type de collaboration avec les pays voisins?
D'accord. Si vous me permettez encore, juste une petite vision sur... parce que j'ai parlé tantôt du financement du terrorisme au plan international. Mais au plan interne, c'est aussi important qu'il faut souligner, M. Imran. Auparavant, ça, il faut toujours faire l'historique des choses. De 2012 à 2020, on a toujours entendu des financements du terrorisme au plan externe. Mais vous voyez, de 2020 à 2025, on commence à parler de financement interne. Ça échappe à beaucoup de gens, mais il faut jeter un regard là-dessus. Ce qu'on appelle le prélèvement de la zakat. Je ne vais pas citer peut-être qu'un pays, mais un pays de la sous-région. Donc, il y a... Bon, ce n'est pas un problème. Au Niger, il y a une étude qui a été faite, une enquête qui a été faite sur...
Mais est-ce que le prélèvement de la zakat est assez conséquent pour pouvoir permettre aux groupes terroristes de financer leurs actions?
Ah, mais bien sûr, parce que la taxation, c'est sur le bétail. C'est sur les ressources, c'est l'exploitation des ressources naturelles que vous venez d'évoquer. Mais récemment, au Niger, dans une commune, les groupes armés ont parvenu à collecter 69 millions de francs CFA. Donc, constitue une collecte d'une seule commune. 69 millions. 89 millions. Donc, 89 millions, donc, collectés dans une commune. Donc, supposons qu'on puisse collecter dans 10 communes. 89 millions fois 10, ça fait déjà 1 milliard. 1 milliard, c'est quand même une ressource importante pour pouvoir se doter de moyens. Donc, maintenant, en ce qui concerne votre question, je pense que les pays sont en conglomérat pour pouvoir renforcer les lois qui sont prises. Parce que ce ne sont pas des lois national, ce sont des lois transfrontalières. Je crois qu'on va y arriver parce que à ce niveau-là, au niveau du Mali, par exemple, quand les deux lois qui sont là pour réprimer le blanchiment et contrôler le finance, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau-là. C'est basé sur l'effort structurel, organisationnel et judiciaire. Par exemple, au niveau d'une structure que j'apprécie beaucoup, c'est ses prestations, c'est la CENTIF, la cellule de traitement d'informations financières, donc qui est aux aguets pour pouvoir contrôler les transactions financières, donc qui coopère vraiment avec les banques. Donc, quand on voit aujourd'hui les structures qui sont mises en place pour pouvoir contrôler les transactions financières, ces lois qui sont mises en place sont en train de travailler aujourd'hui, même si on ne peut pas évoquer tout ce que ces acteurs font au-dessous, donc pour question sécuritaire.
Mais on sait également que le Mali dispose d'une politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Quel est, selon vous, le résultat de cette politique au jour d'aujourd'hui?
Moi, en tant que citoyen observateur, cette politique est mise en place en 2018 avec un premier plan d'action qui est biennal. Et après, en 2020, donc une évaluation avait été faite donc pour pouvoir relever les insuffisances et les forces. Je crois qu'aujourd'hui, cette politique nationale a pu développer un deuxième plan d'action qui est un plan quinquennal. Donc, de 2024 à 2028, sur la base des résultats obtenus exactement. Aujourd'hui, parmi les impacts, on peut dire qu'il y a eu une réduction de la radicalisation des jeunes. Auparavant, les groupes armés, l'une des approches qui était plus utilisée, c'est l'approche communautaire, c'est-à-dire venir dans les communautés pour pouvoir s'entretenir sur les besoins locaux. Par exemple, dire aux communautés que vous êtes là, vous vous dites que vous appartenez à cet état-là. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là sans un centre de santé, sans les infrastructures d'eau, tout ce qui est des besoins locaux, vous n'en avez pas. Mais alors que nous sommes capables de vous les procurer. Donc ça, c'était une approche qui est beaucoup plus utilisée pour avoir les communautés. Donc aujourd'hui, quand vous voyez que cette politique nationale a pu mener une sensibilisation communautaire, a pu mettre en place des cadres de concertation avec les leaders religieux, avec les communautés, pour pouvoir expliquer également la radicalisation dans son sens en Bambara, qu'on dit Bambara Ntiawale, ou bien Dansagowale, ou bien Djatikewale. Donc ces trois phénomènes ont été bien expliqués par la politique nationale du Mali à l'endroit des populations qui sont aujourd'hui en mesure de vous expliquer quelles sont les conséquences de la radicalisation, pourquoi on nous radicalise, et quelle est la conséquence sur moi et ma famille et ma communauté. C'est l'extrémisme violent, comment on y arrive, c'est le terrorisme, quelle est d'ailleurs la fin, quels sont les résultats. Donc cette politique nationale a pu mener une sensibilisation à ce niveau-là, en formant les imams et en dotant des imams d'un outil d'appui à la sensibilisation. Un outil d'appui à la sensibilisation de communautés, de fidèles à travers les sermons, les prêches, dans les mosquées et dans les églises. D'accord. Aujourd'hui, ces imams sont dotés d'un outil qu'on appelle guide de prêche. Ça, c'est un guide qui contient des versets bibliques et coraniques. Donc, qui sont là pour appuyer les imams à préparer leur message de presse et leur sermon également. Pour finir, M. Imran, c'est un résultat qu'on a obtenu sur le terrain, il faut toujours en parler, c'est que cette politique nationale a pu s'introduire dans le milieu scolaire, c'est-à-dire aller former les enseignants des écoles confessionnelles pour pouvoir introduire les thématiques extrémistes violentes dans le système scolaire. Donc ça, c'est très minimum parmi les résultats que cette politique a déjà aussi mené depuis fort longtemps.
Il a parlé des actions que le groupe terroriste amène pour pouvoir avoir les communautés auprès d'eux, notamment l'absence de l'État, en leur disant qu'on va vous créer des centres de santé, des structures routières ou autres. Face aux hostilités des groupes terroristes, la lutte contre l'insécurité seule suffirait-elle sans être accompagnée par des actions de développement?
Bon, c'est difficile parce que les deux vont ensemble. Pas de sécurité, pas de développement. Donc, pour maintenir le développement, il faut la sécurité. Donc, ça veut toujours dire que les actions civiles, s'il faut des actions civiles ou militaires pour accompagner la remontée en puissance ou la sécurisation ou la récupération des territoires. Donc, les deux vont forcément ensemble parce que s'il y a la précarité, s'il y a les manques, si les besoins ou les services sociaux sont difficilement accessibles, il y aura toujours des couacs, des vides qui peuvent être laissés. Donc, pour rejoindre un peu les financements, il a parlé des financements externes, il y a aussi les financements internes. Donc, dans les financements externes,
Il a parlé également des financements internes, il a parlé
de la zakat. Oui. Donc, dans les financements internes, nous avons les extorsions, les taxes sur les populations, commerçants et éleveurs. Donc, ça, on peut avoir beaucoup d'argent. Les tous peuvent avoir beaucoup d'argent. Maintenant, les trafics illégaux aussi, ce qu'on appelle le commerce illégaux, le commerce illégal. Nous avons les bétails ou les produits agricoles. Dans le centre, donc, vous cultivez. Quand vous cultivez, vous donnez une partie. Ils donnent quelque chose quand même. Nous avons aussi les pillages, les vols lors des attaques. Nous avons aussi les enlèvements de notables, comme nous avons constaté par-ci, par-là, et sous forme de rançon. Maintenant, c'est sur le financement externe qu'il est bon aussi qu'on mette un peu d'accent. Parce que ces groupes, étant liés, peuvent bénéficier des soutiens. Quand Al-Qaïda est là, et l'État islamique, donc ils peuvent financer en fonction des objectifs stratégiques. En fonction de l'acte à mener, le groupe pourrait avoir des dons de l'étranger, ou des contributions d'individus, ou des contributions d'entités étrangères. Et nous avons aussi les trafics transnationaux, comme les drogues, les hachis et autres. Nous avons surtout ce qui a donné beaucoup d'argent au terrorisme dans le Sahel, c'est le paiement des rançons pour les otages, notamment les étrangers.
D'accord. Il nous reste 2 minutes. Oui. Le groupe paramilitaire privé russe Wagner a annoncé vendredi dernier son retrait au Mali, même si l'État n'a jamais reconnu sa présence. Nous avons aidé les patriotes locaux à constituer une armée forte et disciplinée, capable de défendre leur territoire. Toutes les capitales régionales sont désormais sous le contrôle des autorités légitimes du Mali, affirme le groupe. Quel bilan peut-on en tirer selon vous de sa présence au Mali?
Bon, la grande question, la présence, pour moi, je parlerai plutôt des partenaires russes, de façon, ou des partenaires stratégiques. ni l'un ni l'autre ne sont pas reconnus officiellement parce que je n'ai pas vu de truc. Mais on peut dire que, dans tous les cas, des partenaires fiables et sincères sont avec le Mali, avec les forces armées, qui les ont aidés à retrouver l'entièreté de sa souveraineté en termes de territoire. Donc, en termes de bilan, beaucoup a été fait, mais il reste encore à consolider. Et surtout les défis qui existent. Récemment, nous avons des défis sécuritaires. Donc, contenir les attaques, les incursions, contenir les petites attaques, surtout, des groupes radicaux. Et aussi, en termes de défis qui peuvent aussi à ramener le développement, c'est que nous attendons aussi que les autorités de la transition respectent ou traduisent en actions concrètes les promesses. Donc, c'est pour dire que les partenaires qui ont aidé le Mali, ce n'est pas seulement les Russes. Nous avons le gouvernement a l'habitude de citer les Russes, les Turcs, l'Iran, donc la Chine. Donc, beaucoup de partenaires sont là. Mais spécifiquement, c'est les deux éléments. Ce que je pourrais dire que c'est des partenaires, et comme l'a dit l'État, renforcer un partenariat stratégique. Je me rappelle bien, il y avait un partenariat d'accord qui a été signé entre le gouvernement de la Russie et le Mali. Donc, dans ce partenariat, nous avons vu qu'il y a le renforcement, il y a la formation, il y a l'armement, il y a beaucoup de choses qui ont donné des résultats, mais les défis restent à consolider les acquis, parce que nous avons constaté par-ci, par-là, des incursions des groupes radicaux.
Et il y a l'arrivée de l'Africa Corps qui est annoncée, une organisation également paramilitaire russe. Cela va-t-elle changer la donne sur l'espace sahélien, notamment au Mali également?
Bon, il est toujours bon d'avoir des partenaires. Comme je l'ai dit, notre guerre, c'est une guerre géostratégique et géopolitique. Parce qu'il y a eu des déclarations des pays, des ambassadeurs, sous-entendants qui soutiennent ceux qui sont contre le Mali. Donc, c'est une guerre où le Mali a besoin des partenaires. Tous ceux qui peuvent aider le Mali, en aidant le Mali, conformément aux principes actés dans la Constitution, il n'y a pas de problème. Donc, toute personne qui peut venir peut apporter sa contribution. Mais il est bon de rappeler que la défense du territoire malien revient à l'armée. Donc, les partenaires peuvent avoir des appuis, comme je l'ai dit, un appui logistique, un appui de communication, de renseignement. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin que les partenaires peuvent nous fournir à un moment donné.
Vous avez parlé des partenaires, comme l'État l'a dit, hein, des partenaires russes. Ce partenaire-là, ce premier partenaire qui va partir et laisser sa place à un deuxième partenaire russe qui va venir, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, de ce premier partenariat à votre lecture?
Bon, pour moi, les partenaires sont toujours là. Hein. C'est une organisation interne. Les partenaires russes sont toujours présents. Et quand on parle de partenaires chez moi, on parle d'un partenaire russe. Quelle que soit les connotations que les gens donnent par-ci, par-là, il est formellement reconnu qu'au Mali, nous avons des partenaires russes qui sont là, qui demeurent toujours au Mali. Maintenant, quand tu as dit l'autre est parti, l'autre est donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'informations concrètes, il n'y a pas d'éléments assez pour pouvoir me prononcer sur ce sujet.
Le vendredi dernier, le Wagner a confirmé sur Instagram que sa mission prend fin au Mali et qu'ils ont eu des résultats escomptés tout en récupérant les capitales régionales du Mali. Alors, quel bilan vous tirez de ce partenariat avec le groupe Wagner?
Merci beaucoup, M. Rewan. Je vais un peu jouer sur votre temps, mais j'ai un élément de réponse assez intéressant à votre question en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme accompagnée par les actions de développement, si vous me permettez.
Allez-y.
Je pense que c'est dans ce sens que l'AES a été créée d'ailleurs. Donc, si vous vous rappelez sur l'acte constitutif de l'AES, donc on peut résumé en quatre axes. Un, ça c'est la coopération militaire, donc qui consiste à mener ce qu'on appelle la sécurité et la défense commune. Deux, la diplomatie commune. Et trois, la souveraineté politique. Et quatre, la coopération économique. C'est là où on doit comprendre que si les pays ont compris cela, ce sont les pays de l'AES qui ont compris qu'il ne suffira pas seulement de lutter contre le terrorisme à travers l'option militaire, mais il faut accompagner. Pour preuve, c'est que tout récemment, un fait marquant tout récemment, qui a surpris tout le monde, le ministre de Finances de l'AES vient de se réunir tout de suite. Donc, au cours de cette réunion, ils ont initié la création d'une banque de l'AES d'investissement. C'est dans ce sens. C'est pour ne pas seulement être fusé dans l'option militaire. Donc c'est une banque qui va accompagner les investisseurs.
Une banque qui verra le jour en 2026.
Ah bon, de toute façon, les processus sont en cours. Hein. Donc c'est une banque qui s'opère dans ce sens, qui va aider les investisseurs, qui va aider les initiatives de développement local. C'est pour aider à créer l'emploi, pour préserver les jeunes qui sont en proie facile contre l'enrôlement et contre le recrutement. Donc, c'est dans ce sens exactement. Ça, c'est une réponse que je voulais vraiment apporter. Donc, en ce qui concerne le groupe que vous venez dans le
groupe Wagner.
Le groupe, bon, voilà, ça, c'est le groupe que moi, je ne vais pas peut-être m'inscrire dans la même terminologie que vous, mais je l'appelle plutôt les instructeurs russes, sinon les coopérants russes, donc qui coopéraient avec le Mali. Et que ça puisse avoir un impact, je ne pense pas. Parce que, je l'ai dit tantôt au début de mon intervention, j'ai dit que le terrorisme est un projet international. Les terrorismes sont de multinationales, multifactuelles. Ils ont une chemise rouge aujourd'hui, demain, ils en auront bleu. Donc, pour moi, ce n'est qu'un changement de phase. Une phase est terminée, une nouvelle phase s'ouvre. Peut-être que ce qui était là, ça c'est ma lecture propre, ce qui était là pour une phase bien claire, face à un phénomène, face à une approche. Bon, maintenant, une nouvelle phase qui s'ouvre face à une nouvelle approche.
D'accord, il nous reste 2 minutes. Oui. Comment prévenir et combattre le financement du terrorisme?
Ah, mais là, il faut, pour combattre le financement du terrorisme, il faut renforcer la coopération internationale et sous-régionale. Et je crois que l'AES s'est inscrit déjà dans ce sens. Et encore, il faut renforcer ce qu'on appelle... sinon, il faut renforcer ce qu'on appelle les secteurs informels. Il faut les encadrer également. Parce que c'est un secteur aujourd'hui qui favorise un peu les transactions de toutes sortes. Je vais parler ici de transactions mobiles, donc qui sont utilisées aujourd'hui par les groupes armés pour pouvoir transférer le fonds. Et dans ce sens, c'est vrai que nos pays sont en train de fournir beaucoup d'efforts, tel que je viens de le dire, la mise en place de la CENTI, par exemple, qui est là pour contrôler les transactions. Donc, mais il faut aller vers la coopération judiciaire, chose qui a aussi commencé. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les institutions juridiques et autres. Donc, ce sont des tribunaux aussi qui sont spécialisés, qui sont mis en place, qu'il faut le renforcer, donc en termes de matériel, ressources humaines, donc pour pouvoir mutualiser les efforts, comme les groupes armés sont en train de le faire. Okay. Aujourd'hui nous devons être à mesure de poursuivre un terrorisme qui commet des actes ici, de le poursuivre jusqu'au Burkina Faso. Ça, c'est la coopération judiciaire. C'est des choses qui se renforcent davantage.
Comment parvenir au bout du financement du terrorisme, mettre fin au financement du terrorisme?
Bon, pour lutter contre le financement, nous avons le financement externe d'abord. Interne, il faut renforcer la gouvernance, améliorer la présence de l'État et les services de base pour réduire la dépendance des populations vers les groupes. Nous avons aussi qu'il faut réguler les ressources naturelles, que tout le monde en profite. Quand on dit l'or brille pour le Mali, il faut que l'or brille réellement pour les Maliens. Nous avons aussi la sécurité locale, renforcer les postes de police, les patrouilles, et faire des sensibilisations, comme le collègue l'a dit, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation des communautés. Maintenant, sur le financement externe, comment lutter? C'est la coopération internationale. Nous avons déjà l'AES qui est là, nous avons l'ONU, nous avons la CEDEAO par les renseignements et des sanctions. Nous avons aussi ce qu'on peut dire la régulation des finances internationales, appliquer des normes pour détecter et traquer et lutter contre les trafics de façon générale. Je pense qu'avec ces mesures, il serait facile de pouvoir lutter contre le financement jusqu'à 70%. Mais pour lutter 100%, ce n'est pas facile.
D'accord.
Parce que plus tu t'organises, et aussi s'organisent pour contourner le mécanisme.
D'accord. Voilà. Ainsi se referme ce grand dialogue qui s'articulait autour du financement des groupes terroristes. Et nous étions avec Faïké Papis Sissoko, sociologue, expert en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent menant au terrorisme, et Dr Ahamadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.